5h sur Europe 1.
On a moins d'émissions. On a aussi beaucoup de rénovations énergétiques dans le secteur du bâtiment, mais on manque de vue d'ensemble, du coup, pour aller plus vite.
Des progrès sur les émissions de gaz à effet de serre en France, mais ils restent timides et insuffisants par rapport à nos objectifs. Le marché de l'immobilier va nettement mieux. Les acheteurs veulent de l'espace chez eux et, si possible, un bout de jardin. Et puis, les 4 morts de l'affaire Troadec, coup de folie meurtrière ou bien acte prémédité, la peine ne serait pas la même. Les éléments matériels seront donc passés à la loupe au procès.
À suivre votre journal des sports, notre pressing du matin, puis nous serons en Charente tout à l'heure chez notre apiculteur pour les doigts dans l'assiette.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les jours passent et le mercure grimpe, allant de record en record au Canada. 46 degrés ce week-end, 47 lundi, 49,5 degrés il y a quelques heures. Et précisons qu'on parle bien en degrés Celsius. Symptôme d'une planète où les événements climatiques extrêmes sont amenés à se multiplier. En France, on n'en est pas encore à de tels pics, mais voilà qu'est publié un rapport mitigé du Haut Conseil pour le climat.
Ouais, nos émissions de CO2 baissent un peu plus vite que les années précédentes. Il y a donc un mieux, mais il n'est pas suffisant. Il va falloir accélérer. Virginie Salmen.
Oui, ces dernières années, la France parvenait péniblement à réduire ses émissions totales de gaz à effet de serre d'1,1% par an. En 2019, la baisse a été de près de 2%, 1,9% exactement. On commence à voir bouger les choses dans plusieurs secteurs, notamment le bâtiment, selon la présidente du Haut Conseil pour le climat, la franco-canadienne Corinne Le Quéré.
C'est le chauffage dans le bâtiment qui est la première source d'émissions. Et on passe maintenant à du chauffage électrique, à des réseaux de chaleur, à du chauffage basé sur le bois. Et du coup, on a moins d'émissions. On a aussi beaucoup de rénovations énergétiques dans le secteur du bâtiment, mais on manque de vue d'ensemble, du coup, pour aller plus vite. Et puis, aller plus en profondeur, il faudrait avoir vraiment une ambition d'ensemble du parc.
Alors, qu'en est-il des autres secteurs, Virginie?
Alors, hormis le bâtiment, il y a aussi l'industrie qui progresse grâce à certains procédés moins polluants et le secteur de l'énergie. En revanche, les points noirs, ce sont l'agriculture, très complexe à réformer. Les experts s'inquiètent en particulier de la mauvaise santé des forêts, des arbres malades, desséchés qui ne captent plus autant de carbone. C'est le cas de plus de 3 millions de mètres cubes de bois qui ont dû être déclassés rien que dans le Grand Est. Et puis, le secteur des transports, le plus gros émetteur en France, qui stagne littéralement depuis 2 ans. L'équation est simple. Tous les efforts pour réduire les émissions de CO2 des véhicules ont été réduits à néant par une hausse du nombre de trajets. On se déplace plus et on se fait aussi livrer beaucoup plus de colis.
Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1.
Et on reviendra sur tous ces points avec mon invité à 5h40, donc Michel Colombier, qui a participé. Il est l'un des auteurs de ce rapport du Haut Conseil pour le climat. Il y avait le pass sanitaire français. Il y aura dès demain le pass sanitaire européen.
L'idée, c'est de pouvoir voyager plus facilement d'un pays à l'autre en Europe. Ce document, sur papier ou bien dans l'appli Tous Anti-Covid, contiendra la preuve qu'on est vacciné ou bien testé négatif ou encore qu'on a eu le Covid récemment. Virginie Riva, que doit-on faire exactement ?
Alors, si vous optez pour le format numérique et que vous avez déjà enregistré votre preuve de vaccination dans l'application Tous Anti-Covid, il y a juste une petite manipulation à faire. À la fin de la semaine, vous irez dans la rubrique Mon carnet et vous choisirez l'option convertir votre QR code au format européen. Si vous êtes plutôt papier, deux options. Vous vous êtes fait vacciner après le 25 juin. Dans ce cas, on vous a automatiquement remis ce passeport européen au format papier. Si vous l'avez fait avant le 25 juin, là, il vous faut aller sur le site de l'assurance maladie pour le télécharger. Point important, si vous avez des enfants, sachez que les moins de 11 ans sont exemptés de ce pass sanitaire. En quelques secondes, à l'aéroport, le policier aux frontières va donc scanner votre QR code et pouvoir vérifier via son application que toutes ces preuves émanent bien d'autorités certifiées. Ces preuves, elles sont les mêmes que celles exigées pour le pass sanitaire français, certificat de vaccination, test antigénique ou PCR, ou encore certificat prouvant que vous avez eu le Covid il y a moins de 6 mois. Mais attention, pour ce dernier document, la France, elle, ne l'accepte pas dans le cadre européen. Il vous faut donc bien vérifier avant de partir les règles applicables à chaque pays.
Virginie Riva, reprise du tourisme, reprise de l'immobilier aussi. Le rythme des transactions depuis début 2021 est déjà au-dessus de celui de la même période en 2019. Mais Maud Descamps va nous l'expliquer, les Français ont des envies quelque peu différentes.
Plus d'espace, c'est désormais la priorité des acquéreurs. Plus d'espace intérieur, avec une surface moyenne pour les maisons qui passe de 115 à 117 mètres carrés, mais aussi une envie d'espace vert. Conséquence, les prix des maisons s'en ressentent. Le prix au mètre carré a augmenté en moyenne de 6,8% par rapport à 2019. Des acquéreurs qui priorisent désormais le bien vivre et qui par conséquent font grimper les prix, particulièrement en Île-de-France, observe Laurent Vimon, président de Century 21.
Vous avez une espèce de phénomène de saut de puce entre les grandes agglomérations, les hypercentres et les premières couronnes, avec des gens qui utilisent le prix de vente élevé des hypercentres pour acheter une pièce de plus ou un jardin à 5 ou 6 km.
Autre effet de la crise Covid, l'incertitude. Les Français qui ont épargné 142 milliards d'euros depuis le début de l'épidémie ont vu l'immobilier comme une valeur sûre. Le nombre d'investissements locatifs, notamment en Île-de-France, a bondi de 18,4% du jamais vu.
Il est 5h06 sur Europe 1. On continue à suivre le procès de l'affaire Troadec. Quatre membres d'une même famille tués dans leur maison d'Orvault, près de Nantes, une nuit de février 2017.
Et hier, aux assises de Loire-Atlantique, ce sont les experts qui sont venus confronter leur travail avec le récit de l'accusé, Hubert Caouissin. Pour Europe 1, Charles Guyard.
Les rites funéraires, voilà ce qui caractérise une société humaine, a souligné hier à l'audience une anthropologue. Pendant quelques jours, après le 17 février 2017, Hubert Caouissin aurait donc quitté la civilisation lorsqu'il s'est acharné sur les quatre corps des Troadec. L'intéressé ne le dément pas d'ailleurs, répétant qu'il était alors dans un autre monde. Sur les 26 hectares de la ferme à Pont-de-Buis, les experts n'ont finalement retrouvé que des fragments. Conséquence, impossible de connaître les causes exactes de la mort, a indiqué un médecin légiste. Ce que l'on sait néanmoins, c'est qu'un pied de biche a bien été utilisé à Orvault pour porter les coups. C'est compatible, a noté l'expert en morpho-analyse, avec la forme des traces de sang relevées dans le pavillon. La localisation de ces éclaboussures, en revanche, fragilise la version de Caouissin sur un point central. Ainsi, le sang de Charlotte et de Sébastien a giclé en abondance au niveau de leur lit, comme s'ils étaient déjà couchés lorsqu'ils ont été frappés. Pour les parties civiles, c'est clair. L'accusé est bienvenu à Orvault pour tuer, quand lui affirme avoir été surpris, puis s'être débattu avec chacun des quatre Troadec. La suite ne serait alors qu'un accident. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Une initiative à présent que l'on salue ce matin sur Europe 1 au moment où s'ouvre à Paris un forum de l'ONU qui doit proposer du concret en faveur du droit des femmes. Eh bien, des éditeurs français donnent la parole aux moins de 13 ans sur le sujet.
Plus de 2000 enfants ont écrit des cartes postales avec leur message sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Elles seront lues, ces cartes, à Emmanuel Macron. Reportage dans une classe de CM2 qui s'est prêtée au jeu. Zoé Pallier.
Des écritures rondes, quelques ratures par-ci par-là et de toutes petites fautes d'orthographe, mais surtout des mots pleins d'espoir pour dessiner le monde de demain.
Moi, plus tard, j'aimerais être avocate ou scientifique. J'aimerais avoir le même salaire qu'un homme normal.
Si une fille, elle a envie de s'habiller en garçon, si elle a envie de jouer au foot, elle a totalement le droit.
Au moment de prendre la plume, tous ont levé la main pour participer.
Ça me procure de la fierté que quelqu'un qui est haut placé va pouvoir faire quelque chose de nos lettres. Il peut changer les choses.
Sensibiliser les aînés alors qu'eux-mêmes, ces écoliers, planchent sur le sujet de l'égalité entre les filles et les garçons chaque semaine depuis la rentrée.
Selon vous, les enfants, est-ce qu'une fille a autant le droit de s'exprimer qu'un garçon ?
Résultat, ils sont devenus incollables sur la question et ont même des pistes de solutions.
Souvent dans la cour de récréation, c'est les garçons qui font des jeux et les filles d'un côté. Mais vraiment, on essaie beaucoup plus de se mélanger et on joue beaucoup plus ensemble, mixte, que d'habitude.
Des groupes mixtes aussi pour écrire les cartes au président. Il y avait autant de filles que de garçons décidés à montrer que la lutte contre le sexisme n'est pas qu'une affaire de grands.
Zoé Pallier.
Europe 1 s'associe à la revue Légende, dont le nouveau numéro consacre Georges Brassens.
Oui, 2021 marque les 40 ans de sa mort, ce sera précisément le 29 octobre. On va donc se replonger dans la carrière de cet immense parolier au timbre unique, comme on va l'entendre d'ailleurs tout de suite dans cette archive. Ça date de 1977, c'était sur Europe 1. Georges Brassens parle de sa ville natale, la ville de Sète.
Tout ce que je pourrais dire de Sète, c'est que dans ce pays, on a une espèce d'émotion quand on y est. À quoi cela tient-il, je n'en sais rien. Peut-être est-ce personnel, mais enfin j'ai remarqué pas mal qu'il l'éprouvait aussi. Mais c'est tout, la décrire, c'est difficile. C'est une ville pleine d'eau et de lumière, où il y a des cons aussi là-bas, bien sûr, comme partout ailleurs. Mais dans l'ensemble, ils sont assez rigolos, mais les gens sont gentils et rigolos et pas rigolos, et méchants partout. Hein. Il n'y a pas de différence. L'idéal, ce serait de n'être né nulle part, parce que finalement, les gens sont partout à peu près pareils. Et 7 me plaît, moi j'aime beaucoup ce pays parce que c'est le pays de mes parents, parce que c'est le pays où j'ai passé mon enfance et parce que c'est le pays où j'ai été amoureux la première fois. Et bon, mais c'est quand même un pays comme les autres, mais j'aime beaucoup 7.
Que vers le sol natal, mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée. Terminus en gare de Sète.
La supplique pour être enterré à la plage de Sète. Quelques notes de Georges Brassens ce matin sur Europe 1.
Georges Brassens qui est enterré, bien sûr, au cimetière de Sète. Merci, c'était le journal de François Geffrier, 5h10 sur Europe 1. Et on ouvre le journal des sports. Bonjour Léna Hickmanier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Avec à la une des questions encore après l'élimination des Bleus.
Oui, étape classique, la phase des critiques. 48 heures après, la pilule n'est pas digérée. La presse notamment revient encore ce matin sur ce match face à la Suisse. Les Bleus pensaient-ils l'avoir gagné avant même de le jouer? Écoutez ce qu'en pense Aline Riera, qui est notre consultante pendant l'Euro.
Ils avaient tous envie, mais il y a des fois ça ne veut pas fonctionner. Voilà, quand vous êtes prêt, vous avez tout fait pour vous préparer, vous avez mis tous les ingrédients qu'il faut. Il y a un schéma tactique où il faut s'adapter, où voilà, le coach fait des choix et on essaye, le cerveau essaye, mais le corps ne suit pas. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que mentalement, vous essayez d'appliquer un certain nombre de choses. Vous savez que vous êtes champion du monde, vous savez que tout le monde vous attend. Et pour autant, les copies qui sont rendues ne sont pas bonnes. Donc ces tensions, elles arrivent à cause de ça essentiellement, parce qu'on aborde toujours les matchs pour les gagner. Quand vous avez cette pression sur les épaules, quand vous représentez votre pays... Voilà, ils se sont préparés, ils ont donné ce qui leur restait. Alors, on est d'accord ou pas avec ça. On est préparé physiquement, on donne ce qu'on peut. Mais je ne pense pas qu'il y ait de la suffisance.
Aline Riera, consultante Europe 1 pendant la compétition. Beaucoup de questions, en effet, sur la préparation physique, sur la défense, sur le coaching. Un vrai chantier.
À présent, on attend de savoir ce que fera Didier Deschamps.
Noël Le Graët l'a dit à Europe 1, il ne voit pas son sélectionneur partir avant d'avoir remis son titre de champion du monde l'année prochaine au Qatar. On l'entendra d'ailleurs dans une heure.
L'Angleterre, elle, savoure sa victoire.
Après un succès 2-0 face à l'Allemagne, le visage d'Harry Kane s'affiche partout dans la presse anglaise ce matin. Le buteur que l'on écoute.
C'est incroyable, c'est une journée incroyable pour nous. Ça a été une journée très longue, très stressante, avec beaucoup de pression. Et c'est une joie incroyable, gagner 2-0. Et puis surtout voir Wembley comme ça, avec du monde, c'est magique. On va savourer, mais... Ouais, on va aussi regarder la suite en espérant aller plus loin et revenir ici pour jouer en demi-finale.
Harry Kane avec Simon Rubin, l'Angleterre opposée à l'Ukraine en quart de finale. Et puis on reste en Angleterre un instant avec le tennis et Wimbledon. Encore un Britannique très en forme, Andy Murray, absent 4 ans et qui joue son deuxième tour cet après-midi. Hier, Roger Federer s'est qualifié après l'abandon du Français Adrien Manarino. Abandon également de Serena Williams.
Et puis c'est une première, le Comité National Olympique Français a désormais une présidente.
Brigitte Henriques, qui était jusque-là vice-présidente de la Fédération de foot, première femme au poste du CNOSF depuis sa création en 1972. Forcément, ça fait quelque chose.
C'est un grand, grand moment d'émotion parce que c'est un moment historique. Mon parcours, c'est un parcours de combattante. Moi aussi, je n'ai pas pu pratiquer le football dans un club quand j'étais jeune. Puis, je me suis engagée pour justement permettre à ce que toutes les jeunes filles puissent pratiquer le plus possible, quels que soient les sports. Et voilà, je suis très fière aujourd'hui d'avoir été élue première femme présidente, mais surtout, je suis prête à relever le challenge de faire en sorte que ces 108 fédérations nous permettent de peser beaucoup plus dans le débat public en termes de cohésion sociale, en termes d'enjeux de santé, en termes d'éducation, mais aussi nous permettent de gagner énormément de titres et notamment en espérant franchir la barre des 40 médailles sur les Jeux de Tokyo.
Voilà, un gros projet pour Brigitte Henriques qui succède à Denis Masseglia et qui répondait à Corinne Bolou.
Léna Hickmanier, merci, à tout à l'heure. 5h14, il nous reste à découvrir le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vichy et mon pari gagnant sera le 611 Hollywood Dubois. Sa régularité vient d'être récompensée par une victoire obtenue le 6 juin sur l'hippodrome de Royan-la-Palmyre où il s'est imposé ce jour-là à la manière des forts, quasiment de bout en bout. Capable d'adopter toutes les tactiques, quel que soit le parcours proposé, sa place est une nouvelle fois à coup sûr à l'arrivée. Notez bien, pour cet après-midi à Vichy, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 11, Hollywood Dubois.
Merci à vous Thierry Léger et à tout à l'heure pour les pronostics du Quintet.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est presque 5h15 sur Europe 1, très bon réveil. L'actualité ce matin sur Europe 1. avec notamment cette grosse frayeur. Hier, en fin d'après-midi, près de Rouen, des riverains ont aperçu un homme équipé d'un fusil d'assaut sur la zone d'activité de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'était en fait une arme factice, un exercice non déclaré aux autorités. 130 policiers, pompiers et soignants ont quand même été mobilisés jusqu'à la levée de doute. Le réseau social LinkedIn a été piraté. Les données de plus de 9 utilisateurs sur 10, 90% des utilisateurs. Les données ont été aspirées. Cela représente plus de 700 millions de personnes dans le monde. Et puis la France va se remettre à produire du paracétamol sur son sol en 2023, annonce de l'entreprise C15, sous-traitant de grands labos pharmaceutiques. Elle confirme le lancement d'une nouvelle usine dédiée sur son site de Roussillon dans l'Isère.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec Amblin Roche et Martin Lange autour de moi. On commence par un coup d'œil aux unes de vos journaux qui reviennent à nouveau ce matin sur l'élimination des Bleus, les raisons d'un fiasco dans le Dauphiné libéré ou encore dans la Provence. Tous les pays nous les enviaient, les Bleus, titre l'équipe, sauf la Suisse. Et le Télégramme s'intéresse aux autres perdants de l'euro, du coup. Bah oui, les bars et les vendeurs de produits dérivés de l'équipe de France. Libération joue la métaphore footballistique, justement. La vaccination ou la prolongation? Les injections ralentissent alors que le variant Delta représente désormais 20% des cas. Et Nice Matin s'interroge sur la vaccination obligatoire, pourquoi pas pour les soignants. La politique dans le Figaro, comment Emmanuel Macron veut faire oublier les régionales. Et puis la politique mais en mode comédie dans Aujourd'hui en France qui consacre sa une à un film. Au cinéma, les présidents nous font rire. Jean Dujardin et Grégory Gadebois jouent les doubles de Nicolas Sarkozy et François Hollande dans cette comédie qui sort aujourd'hui en salle. Votez président, voilà le titre d'Aujourd'hui en France. Et voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Amblin, on commence par une histoire d'eau de source.
Oui, le volume d'eau de la planète n'a pas bougé depuis 2 millions d'années. Si nous ne faisons rien, nous serons au bout de nos ressources d'ici à 2050. Un peu inquiétant le discours de Cédric Egger qui dirige la section eau chez Nestlé. Et c'est ainsi que commence cet article dans le Figaro. À Vittel, Nestlé lutte depuis 10 ans contre le volume d'eau qui baisse dans les nappes souterraines. Ajouté à ça la croissance de la population et le développement du marché de l'eau en bouteille. Si les sources ne sont pas encore menacées, ce n'est pas le cas aujourd'hui, elles sont en tout cas clairement fragilisées. Les groupes qui gèrent ces eaux précieuses tentent de trouver des solutions. Par exemple, pour Vittel, un système de recyclage des eaux usées sur le site d'embouteillage. Oui, on appelle ça l'embouteillage quand on met en bouteille l'eau. Il faut économiser l'eau utilisée pour nettoyer les machines des usines, car elle aussi est prélevée sur place à Vittel, donc dans les Vosges, mais aussi à Volvic, au cœur des volcans auvergnats. Et là aussi, le sujet de la préservation de l'eau à l'heure du changement climatique est stratégique. L'eau minérale de Volvic est prélevée dans un bassin de captation à 900 mètres d'altitude, à la confluence de trois vallées. Tous les ans, 22% des 12 milliards de litres disponibles sont prélevés. Alors non, on ne manque pas d'eau aujourd'hui, mais selon Danone, le niveau de la nappe phréatique a baissé de 30% en 40 ans. Depuis 1980, c'est énorme, mais cela n'est pas dû à une surexploitation, en tout cas c'est ce que dit Danone, mais moins de pluie et des températures moyennes passées de 11 à 13 degrés, voilà les fameux plus 2 degrés. Des chantiers de reforestation ont été mis en place pour retenir l'eau, des projets de restauration des cours naturels des rivières sont actuellement en chantier pour éviter des écoulements inutiles et des pertes. Alors vous imaginez que la préoccupation est autant écologique qu'économique. Volvic emploie 900 personnes dans son usine d'embouteillage. On ne fabrique pas d'eau sur demande. L'eau de Volvic vient de Volvic, l'eau de Vittel vient de Vittel, l'eau d'Evian vient d'Evian.
Ouais. Voilà, on peut pas. Et là, on peut imaginer qu'il n'y ait plus ces bouteilles dans les rayons un jour, si ces sources sont taries.
En tout cas, pour l'instant, ils font tout pour éviter que cela n'arrive. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est juste un constat et un signal d'alerte.
Et un signal d'alerte.
La bataille pour sauver l'eau de source dans le Figaro.
Autre sujet, on parlait de l'élimination de la France à l'euro. Bien, le Parisien nous emmène en coulisses ce matin. En coulisses dans la nuit noire des Bleus après la défaite contre la Suisse. Alors l'ambiance n'était pas trop à la fête après le match, hein, on ne va pas se mentir. On l'imagine bien, à la sortie du stade, Antoine Griezmann est le premier à s'engouffrer dans le bus. Seul, il va rester isolé un bon moment. Kylian Mbappé, qui a manqué le dernier pénalty décisif, marche lui aussi seul vers le bus. Dans le vestiaire, il a présenté ses excuses à l'équipe. On savait qu'il les avait présentées aussi aux supporters sur les réseaux sociaux. Mais le journal pointe que les Bleus n'ont pas semblé faire bloc autour de lui. Seuls trois remplaçants et Didier Deschamps l'ont réconforté sur la pelouse. Didier Deschamps, qui a eu ces mots dans le vestiaire, « N'oubliez pas ce que vous avez réalisé. Rappelez les bons souvenirs de 2018, la Coupe du Monde. » Pour ne pas que le groupe explose, des échéances importantes arrivent au mois de septembre. Il est plus de 2h30 du matin lorsque les Bleus regagnent leur hôtel et le sommeil ne va pas venir tout de suite. Les proches des Bleus sont enfin autorisés à les rejoindre. La bulle sanitaire qui était très étanche autour des Bleus explose très très vite. Le père de Kylian Mbappé rejoint son fils, les frères et sœurs de Karim Benzema, la famille de Lucas Hernandez. Personne ne dort et on apprend dans cet article du Parisien que des tensions ont émergé entre les familles des joueurs dans les tribunes du stade dès la fin du match. La mère d'Adrien Rabiot s'en prend vertement au père de Kylian Mbappé. Elle lui dit « J'espère que vous allez sermonner votre fils
oh ». Vous vous
rendez compte ? Après le pénalty manqué, elle s'en prend ensuite à un journaliste de TF1. Ambiance électrique donc. On en parlera à 5h30 aussi des questions autour de l'avenir de Didier Deschamps. Qui, dans le vestiaire, a endossé lui-même la responsabilité de l'échec. Voilà, dans la nuit noire avec les Bleus, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France qu'il y a eu accès à quelques informations sur ce qui s'est passé. Donc, dans cette nuit, quasiment nuit blanche.
Ils n'ont pas dormi,
parce qu'ils n'ont pas dormi jusqu'à très tard, les Bleus, après le match d'avant-hier soir.
Mais si en plus la famille s'y met, en plus des supporters,
qui se prennent le chou dans les tribunes.
On arrête de tirer sur l'ambiance quand même. À un moment donné.
Martin, on termine avec vous avec une découverte.
Oui, tout à fait, celle d'un de nos ancêtres. Alors, on connaissait Homo habilis, on connaissait aussi l'homme de Néandertal. Eh bien, figurez-vous qu'on va peut-être devoir rajouter une ligne dans l'arbre généalogique de l'humanité. Homo longi, ça veut dire l'homme dragon en mandarin. Son crâne a été découvert en Chine et il ne ressemble pas à ce que nous connaissons déjà. Il ne s'agit ni d'un homme de Néandertal, ni d'un homo sapiens, c'est autre chose. S'enthousiasme ce scientifique du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, interrogé par la revue New Scientist.
L'homo longi, l'homme dragon, qu'est-ce qu'on sait de cet homme dragon et de ce crâne?
Alors déjà, il a une histoire assez étonnante. Il a été découvert il y a près de 90 ans, en pleine occupation de la Chine par les soldats japonais. Ces derniers contraignent des villageois à construire un pont au-dessus de la rivière Songhua. C'est au bord de cette rivière que l'un d'entre eux découvre ce crâne miraculeusement intact. Il cache sa trouvaille dans un puits pour éviter que les Japonais mettent la main dessus. Le crâne a été sorti de sa cachette il y a quelques mois. On lui a donné un petit nom, donc l'homme dragon. Dernier membre en date du genre homo qui vivrait il y a plus de 146 000 ans, selon le magazine Science.
Alors, sauf que certains scientifiques sont quand même un peu sceptiques.
Oui, ils pensent que ce crâne appartient en fait à un Denisovien, un autre de nos ancêtres, découvert pour la première fois il y a une dizaine d'années, dans la grotte de Denisova, en Sibérie. Un ancêtre encore assez méconnu, puisqu'il n'a laissé dans la grotte que quelques traces ADN, une phalange et des dents. Et ce sont ces dents qui ont mis la puce à l'oreille des scientifiques. Elles seraient très proches de celles de notre homme dragon. Voilà pourquoi il existe encore un doute sur la découverte de cet ancêtre. Avec l'homme dragon, une nouvelle espèce humaine a-t-elle été découverte? C'est à lire dans le Courrier international.
Voilà, j'imagine que le travail scientifique va continuer
tout
autour de ça. Pour...
avec des tests ADN approfondis pour voir s'il s'agit d'un inédit.
Et pour percer le mystère. Merci à tous les deux. C'était le pressing du jour. Il est 5h23.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et nous allons en direct en Charente pour Les Doigts dans l'Assiette. Bonjour Jérémy Lapalu.
Bonjour.
Bienvenue dans Les Doigts dans l'Assiette. On vous retrouve régulièrement. Vous êtes apiculteur et vous êtes aussi maraîcher à Bourg-Charente. Comment allez-vous en ce moment ?
Très bien, je vous remercie. Alors, enfin les légumes d'été.
Enfin les légumes d'été. Alors voilà, justement, vous nous parliez de vos abeilles la dernière fois. On va aller peut-être du côté du potager cette fois, puisque ça y est, là, qu'est-ce que vous avez en ce moment là? Ça commence à bien pousser.
Alors on est toujours sur les dernières verdures du printemps, donc salade, radis, blette, tout ce qui pousse, on va dire, sur des cycles assez courts. Mais enfin, pour la semaine prochaine, je crois qu'on va avoir les tomates, les premiers haricots. On a fait quelques pommes de terre nouvelles déjà. Donc voilà, ça y est, l'été arrive. Enfin, avec du retard, mais on y est.
Avec encore beaucoup de pluie, non, quand même, en ce moment?
Oui, c'est très, très arrosé. Alors, ce qui, pour le coup, est pas plus mal. Mais c'est vrai que s'il pouvait faire un peu meilleur, quand même, ce serait pas mal. Ça irait plus vite. Ça serait un peu mieux.
La pluie, c'est un problème pour les potagers, là, en ce moment?
Non, mais c'est vrai que on accumule. Alors c'est vrai que j'ai en tête aussi les abeilles, c'est pour ça. C'est un problème pour les abeilles en ce moment. Mais pour le potager, C'est vrai qu'on a accumulé pas mal de retard au mois de mai. C'est vrai que ça aide pas les légumes à mûrir, quoi. C'est ça. Il fait souvent couvert et gris, c'est ça le problème. La pluie, sinon, n'est pas un problème. La pluie, c'est toujours être content qu'il pleuve en été, ça. C'est clair que...
Et alors, pour les abeilles, qu'est-ce qui pose problème? Il y a trop d'humidité?
Chaque jour de pluie est un jour, on va dire, perdu. C'est un jour... C'est un jour où les abeilles ne travaillent pas, ou peu en été en tout cas.
Ouais,
c'est
elles ne sortiront pas butiner un jour humide. Alors, redites-nous où vous vendez les produits du potager, parce que vous êtes toujours lien avec l'EHPAD qui est sur le site où vous êtes installé.
On ne vend pas les produits potagers. Le but est de produire pour l'EHPAD. Hein. Le but est de produire ce que l'EHPAD a besoin, en accord avec selon les besoins du chef, hein, qui compose des menus avec une nutritionniste, hein, pour que ce soit adapté au mieux aux résidents. Donc on essaie de travailler vraiment à la demande. Hein. C'est vraiment le défi de ce projet.
Ouais.
J'imagine
que les liens sont plus faciles maintenant que les histoires de confinement, etc., sont levées, parce que ça a été très dur pour les résidents de l'EHPAD.
Oui, bien sûr. Avec l'arrivée du vaccin, maintenant, on travaille vraiment main dans la main avec le cuisinier, la nutritionniste, donc qui établit des menus, et nous, on essaie de produire les quantités nécessaires, quoi. Donc, mais ça demande beaucoup d'échanges. Oui. Ça demande beaucoup d'échanges.
Voilà, donc pour cette exploitation, donc adossée à un EHPAD, la vôtre, Jérémy Lapalu, en Charente, avec les ruches. On espère que les abeilles vont pouvoir travailler dans les jours qui viennent, avec le soleil qui, j'espère, va revenir. Et puis le potager, donc, qui permet au chef de préparer les repas. À bientôt, Jérémy.
Merci.
Dans les droits dans l'assiette. 5h26.
Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Soleil, c'est le nouveau titre de Christophe Maé sur Europe 1. Bon, il y a du soleil dans ce titre de Christophe Mallet. Un peu moins dans le ciel en ce moment, Laurent Cabrol, 5h29, la météo avec quand même une accalmie hein, ce matin.
Oui, le ciel est assez clément ce matin, faut bien le dire, avec quelques pluies encore sur les frontières du nord-est, mais ça ne va pas durer. Mais dans le courant de la journée, quand même, ça va se dégrader assez sensiblement. À la fois sur le nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Vallée de la Loire, nous aurons des averses, bien sûr, comme ces jours derniers. Et nous aurons des orages, bien sûr, comme ces jours derniers. Les orages, cependant, seront quand même assez discrets, un peu plus espacés. Sur la moitié sud, ah ça c'est une bonne nouvelle, hein, sur la moitié sud, c'est-à-dire au sud de la Loire, les éclaircies vont l'emporter très largement et ce sera presque une belle journée, surtout près de la Méditerranée, sur une large partie du bassin méditerranéen, où nous aurons un ciel dégagé avec des vents quand même qui souffleront autour de 50 à 60 km/h. Les températures ne changent pas beaucoup, elles restent quand même fraîches pour la saison, avec 16 degrés à Lille, pas plus, 18 à Nancy, 19 à Dijon, 20 degrés à Paris cet après-midi, 22 à Bourg-et-Rennes, 24 à Bordeaux et à Lyon, 26 à Carcassonne et 29 degrés à Marseille.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez au réveil. Tout de suite un nouveau journal. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de partir. On est suffisamment proches l'un de l'autre pour passer le temps qui convient pour discuter.
Le président de la Fédération française de foot prend la parole ce matin sur Europe 1, Noël Le Graët, qui veut une discussion sérieuse avec Didier Deschamps après l'échec des Bleus à l'Euro. Dans ce journal aussi, des personnels soignants trop peu vaccinés au goût du ministre de la Santé. Le maire de Grenoble qui se lance dans la primaire des écolos et un bond en arrière de 76 millions d'années aux origines de la disparition des dinosaures.
Après le journal, le rappel à l'ordre du Haut Conseil pour le climat. La France doit accélérer sa réduction des émissions de gaz à effet de serre si elle veut tenir les engagements qu'elle a pris. Je reçois l'un des experts qui a participé aux travaux, l'économiste Michel Colombier, et mon premier invité dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un premier échange déjà et une rencontre à venir. Didier Deschamps est le président de la Fédération française de foot, amené prochainement à évoquer l'avenir après l'élimination de l'équipe de France en 8e de finale de l'Euro.
Le sélectionneur, dont le contrat court jusqu'en 2022, n'a pas atteint l'objectif des demi-finales fixées par la Fédération. La suite doit donc maintenant être discutée, Cyril de la Morinerie.
Oui, Noël Le Graët a confirmé à Europe 1 qu'il avait échangé hier en fin d'après-midi avec Didier Deschamps. Ils se sont parlé au téléphone pendant 2 minutes et ont convenu de se revoir d'ici une dizaine de jours maximum. Le président de la fédération veut avoir une discussion sérieuse avec son sélectionneur. D'abord, pour comprendre les raisons de cet échec, mais aussi pour savoir si Didier Deschamps souhaite vraiment poursuivre sa mission, même si sur ce point, Noël Le Graët n'a pas beaucoup de doutes.
J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de partir. On est suffisamment proches l'un de l'autre pour passer le temps qui convient pour discuter. Donc on ne décide pas comme ça. Il faut aussi qu'il lui ait très envie, parce que c'est des métiers de passion. Il faut être très à l'affût de ce qui se passe un peu partout et avoir une motivation extrême, et je suis persuadé qu'il l'a.
Voilà pour le discours officiel. En coulisses, en revanche, il se murmure que Noël Le Graët serait très remonté. Le président ne comprend pas les errements tactiques de Didier Deschamps et sa gestion du groupe. Mais la tendance reste à un maintien du sélectionneur. Noël Le Graët affirme à Europe 1 qu'il n'a pas de plan B. Mais attention, le président de la fédération ne cache pas non plus son admiration pour Zinedine Zidane et affirme même qu'il deviendra un jour le patron des Bleus.
Et en attendant, sans les Bleus, l'Euro se poursuit. Dernier 8e de finale hier, qualification de l'Ukraine, tombeuse de la Suède après prolongation 2-1 et de l'Angleterre qui a sorti l'Allemagne 2-0.
La menace d'une obligation vaccinale, à nouveau brandie par le ministère de la Santé pour les soignants. L'objectif est clair, d'ici septembre, 80% des personnels devront être vaccinés.
Avec un accent particulier sur les EHPAD, où, selon le ministre Olivier Véran, seuls 57% des soignants ont reçu au moins une dose. Pourquoi ces réticences? Comment est vécue la menace d'une obligation vaccinale? Élément de réponse avec ce reportage de Nicolas Feldman à la résidence de l'Abbaye, un EHPAD du Val-de-Marne.
On parle entre nous, les collègues qui sont vaccinés, on essaie de savoir pourquoi elles l'ont fait. Celles qui ne veulent pas, on essaie de savoir aussi pourquoi elles ne veulent pas le faire. Et on essaie d'en discuter.
Le débat s'invite parfois pendant les pauses. Dans cette EHPAD du Val-de-Marne, 70% des soignants sont vaccinés. Mais il y a des réticents comme Isabelle.
C'est un choix personnel dont je n'ai pas assez de recul pour l'instant. Les vaccins, on s'est battu depuis la nuit des temps pour avoir des vaccins. Mais les vaccins, ça demande quand même du recul. Et là, je pense qu'il n'y en a pas. Bien sûr qu'on a une responsabilité, tout à fait. Je fais très attention à ce que je fais. Mais pour l'instant, je ne suis pas à 100% convaincu.
convaincre, échanger, expliquer, c'est ce qu'essaie de faire la direction.
Comment c'est mobilisé pour ce vaccin ?
Pourquoi on nous dit, pourquoi il y a un âge, que tel vaccin c'est pour telle personne, tel vaccin c'est pour l'autre ?
C'est plus efficace et avec moins de contre-indications selon les âges. C'est-à-dire qu'il y a ce recul-là et c'est rassurant.
Florence Rio est responsable de la vie sociale.
Elle va réfléchir, comme elle dit, aujourd'hui elle n'a pas pris la décision de se faire vacciner, peut-être dans quelques temps, avec un peu plus de recul. Elle a besoin d'un peu plus de recul. Ils se posent des questions, on leur répond. On a le médecin coordinateur qui est là pour aussi les rassurer. Mais il faut respecter la liberté et le choix de chacun.
Et si le vaccin devient obligatoire pour les soignants, Isabelle a déjà fait son choix.
Bah, je quitte le travail, c'est pas grave. Je trouve qu'on est en démocratie. Je ferai autre chose.
La direction de l'EHPAD, elle, redoute de perdre du personnel dans un secteur déjà sous tension.
Sur le front sanitaire, toujours, l'annonce a été faite hier. La braderie de Lille est annulée cette année. La mairie pointe les incertitudes liées aux variants. Le Delta représente désormais 20% des contaminations en France. La crise sanitaire qui a donné à beaucoup des envies d'autre chose, de changement, notamment en matière professionnelle. Et ce pourrait être un levier pour évoluer. La formation, aujourd'hui c'est le dernier jour pour faire basculer les horaires du droit individuel à la formation. Sur votre compte personnel formation, la démarche est toute simple, comme vous nous l'expliquez ce matin Olivier Samain.
Ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que ce sujet vous concerne si vous étiez salarié avant le 31 décembre 2014. Tout simplement parce que c'est la date de disparition du DIF, remplacée depuis par le compte personnel de formation. Les heures que vous aviez accumulées avant la fin 2014 ont survécu au DIF. Elles ont été depuis converties en euros. Sauf que pour pouvoir puiser dedans afin de financer une formation, il faut qu'elles aient été préalablement transférées sur le CPF. Et ça, ce n'est ni l'employeur ni l'État qui s'en charge, c'est vous. Et vous avez jusqu'à ce soir minuit. Pour ça, vous récupérez votre bulletin de paye de décembre 2014 ou à défaut, une attestation que votre employeur de l'époque vous a remise en janvier 2015. Si vous ne la retrouvez plus, demandez-lui en urgence un duplicata. Il vous suffit ensuite d'aller sur le site internet Mon Compte Formation ou sur l'appli que vous avez créée sur votre mobile et vous vous laissez guider. Alors attention, l'afflux de ces derniers jours a provoqué quelques bugs. Il y en aura probablement encore aujourd'hui. Mais rassurez-vous, dès lors que vous aurez engagé la démarche, votre demande sera prise en compte et traité avec éventuellement quelques jours de retard.
Une précision signée Olivier Samain.
5h36 sur Europe 1. Après les élections régionales, les regards se tournent maintenant vers 2022, vers l'Élysée. Et chez les écologistes, le maire de Grenoble, ça y est, a officialisé sa candidature à la primaire.
Dans l'attente de Yannick Jadot, ils sont désormais deux en lice. Éric Piolle donc et Sandrine Rousseau. Éric Piolle qui promet de faire campagne sur le terrain tout au long de l'été. Reportage à Grenoble du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Beaujon.
À Grenoble, voilà des mois que l'on sait qu'Éric Piolle a très envie de devenir le candidat des Verts à la présidentielle. Et visiblement, son message passe bien au-delà des Alpes, explique Margot Beller, l'une des responsables de l'équipe de campagne.
Ce qu'il propose, ce qu'il apporte comme solution, c'est s'appeler aux gens qui trouvent une personnalité un peu différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir à la télé, à la radio. Avant, il a été ingénieur, il a géré des équipes, il a un passé dans le monde du travail que certains hommes et femmes politiques n'ont pas forcément. Et ça fonctionne.
Un homme proche des réalités, voilà l'image qu'aime renvoyer Éric Piolle pour se différencié des autres candidats verts. Il sera donc à pied d'œuvre tout l'été. Il va notamment sillonner le pays à la rencontre des Français qui ne partent pas en vacances. L'occasion pour lui d'expliquer la réussite du modèle grenoblois, estime Guillaume, un militant.
Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé à Grenoble sur les aspects de mobilité, d'espace public, la biodiversité, la nature en ville. Tout ça qui a été récompensé par le titre de capitale verte européenne 2022. Donc c'est vraiment une réussite en étant un peu le premier maire écologiste d'une grande ville. Et j'espère que ça va montrer la voie sur l'échelon ensuite national.
Éric Piolle, qui compte bien aussi dans cette campagne promouvoir l'arc républicain, son modèle de gouvernance à la gauche de la gauche, avec des socialistes, des communistes et des insoumis. Grenoble, Jean-Luc Beaujon, Europe 1.
À chaque journée, son record au Canada, 49,5 degrés enregistrés à Halton, dans l'ouest du pays. Selon les autorités, la vague de chaleur des derniers jours serait à l'origine de plusieurs dizaines de morts, notamment chez les personnes âgées.
Le climat qui serait responsable en son temps de l'extinction des dinosaures, c'est ce que montre une nouvelle étude paru aujourd'hui dans la revue Nature Communications.
Une équipe de chercheurs, dont des Français du CNRS l'assurent, l'extinction avait commencé avant même la chute de l'astéroïde sur Terre, Lord Autriche.
Oui, les chercheurs ont étudié 6 familles de dinosaures, dont les tyrannosaures, les tricératops. En analysant l'âge d'extinction de plusieurs espèces, ils ont démontré qu'il y a 76 millions d'années, elles commençaient déjà à disparaître. L'astéroïde de 12 km qui est tombé sur Terre 10 millions d'années plus tard a sans doute porté le coup de grâce aux dinosaures déjà en difficulté. S'ils ont commencé à disparaître, selon Fabien Condamine, chercheur au CNRS, c'est parce que les températures sur Terre ont chuté de 7 degrés.
Ça a beaucoup de sens puisque les dinosaures sont des animaux qui se situent à mi-chemin entre nous, les mammifères, les oiseaux et tout ce qui est de l'ordre des lézards, des tortues, des crocodiles. Donc, si bien que, en fait, dépendaient fortement des températures du milieu environnant.
Alors, il faut imaginer qu'à l'époque, sur un territoire comme l'actuelle Sibérie, il y avait des forêts de palmiers et une température de 30 degrés. Selon les chercheurs, les dinosaures herbivores ont été les premiers à disparaître, ce qui a déséquilibré les écosystèmes et entraîné des disparitions en cascade d'autres espèces.
L'or d'Autriche pour Europe 1.
6h20, c'était le journal de Marion Calais. À tout à l'heure. Place aux courses maintenant. Thierry Léger, quels sont vos pronostics pour le quintet ?
Direction Vichy pour ce quintet, une course au trot attelé. Parmi les 14 partants, Enzo Dazif, le numéro 4, sera sans hésitation mon favori. Oubliez sa dernière disqualification dans un quintet le 7 juin sur le parcours qui nous intéresse, où après un déroulement de course exécrable, il luttait encore pour les premières places à mi-ligne droite lorsqu'il se montrait fautif. Ayant bien retravaillé depuis, il trouve ici une occasion idéale de rembourser ses nombreux supporters. On lui opposera les numéros 5, Antoine J'espère, revenu au mieux de sa forme et qui ne peut rêver meilleures conditions de course, 13 Élégant du Lupin, titulaire de 17 victoires et qui a terminé 12 fois dans les 3 premiers en 41 tentatives, et 10 Effigie Madric, certes intermittente, mais qui bien lunée a assurément le niveau pour faire l'arrivée. Enfin, les numéros 14 Cadet, 12 Enzo River, 11 Eagle Mélois et 2 Eden de la Moire compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 5, 13, 10, 14, 12, 11 et 2.
Merci à vous Thierry Léger et on retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
5h41, bien mais peut mieux faire. Voilà, c'est un peu l'appréciation donnée à la France pour sa politique de réduction des émissions de CO2. Il faut accélérer, conclut le rapport annuel rendu par le Haut Conseil pour le Climat. Bonjour Michel Colombier.
Bonjour.
Merci d'être le premier invité du 5-7 ce matin. Vous êtes économiste, vous avez cofondé l'Institut du développement durable et des relations internationales et vous avez participé aux travaux de ce rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat. Commençons peut-être par le mieux. Sur quoi la France a progressé ?
Alors, dans notre rapport, on montre qu'on a une progression évidente sur notamment le secteur du bâtiment, sur lequel les émissions baissent de façon continue depuis 2015. C'est un secteur important qui représente 20% des émissions. Par contre, on a peu de progrès pour l'instant sur deux secteurs qui sont très importants pour la France, qui sont les transports et le secteur de l'agriculture.
Alors si on s'arrête d'abord sur le bâtiment, qu'est-ce qui fait que ça progresse ? C'est l'isolation des logements ? C'est le chauffage ?
Alors, il faut voir que le secteur du bâtiment, c'est donc essentiellement la question du chauffage ou la production d'eau chaude qui est en cause, et l'utilisation de combustibles fossiles. Et en effet, il y a deux façons de faire progresser les choses. C'est d'un côté l'isolation, qui est absolument essentielle. La facture de chauffage est quelque chose d'extrêmement important. Donc l'isolation est importante pour maîtriser les coûts. Et ensuite, évidemment, il faut aussi changer de source de chauffage, de source de combustible, et donc progressivement abandonner le fioul, puis demain abandonner peut-être le gaz naturel pour se tourner vers des énergies décarbonées. Aujourd'hui, on voit ces deux mouvements démarrer, c'est-à-dire qu'on a une baisse très sensible du recours au fioul, notamment parce qu'on a des vieilles chaudières qui sont progressivement remplacées par des équipements nouveaux, gaz, électrique, etc. Mais on voit aussi, enfin, une dynamique se mettre en place dans le domaine de l'isolation, ce qui est une bonne nouvelle.
Oui, avec notamment ces mesures qui sont prévues dans le plan de relance et qui vous voyez d'un bon œil, j'imagine, pour financer la rénovation énergétique des logements.
Le plan de relance, c'est vrai, apporte une aide substantielle à la question, puisqu'il a fléché près de 7 milliards d'euros sur des questions de rénovation. Donc de ce point de vue-là, le plan de relance apporte une aide sensible. On fait deux recommandations d'ailleurs par rapport à ça. L'une, évidemment, est d'accorder une attention particulière à la question climat dans l'utilisation de cet argent. Et la deuxième, qui nous semble extrêmement importante, c'est de poser la question de l'après-plan de relance.
Si on regarde l'industrie en termes de rejet industriel, est-ce qu'il y a aussi des progrès ?
Alors, on a des progrès aussi dans l'industrie. C'est un secteur qui s'améliore. On a eu évidemment par le passé des baisses d'émissions dans l'industrie pour de mauvaises raisons, entre guillemets, hein, qui ont été des fermetures ou des délocalisations industrielles. On observe aujourd'hui de vraies mesures structurelles, des avancées d'efficacité énergétique en particulier dans certains secteurs. On est néanmoins dans l'industrie devant un enjeu fondamental qui est celui de développer des technologies radicalement différentes pour les grands secteurs consommateurs que sont par exemple les cimenteries ou les aciéries.
Alors ça c'est pour les points qui vont un peu mieux, mais le Haut Conseil pour le climat parle quand même d'une amélioration mitigée. Alors sur quel point la France peut mieux faire, doit mieux faire même ?
Alors, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a deux façons de regarder cette question-là. La façon telle qu'on a commencé à la regarder ensemble à l'instant, qui est de se dire, est-ce que les émissions baissent ? Mais il y a une deuxième façon qui est, est-ce qu'on va atteindre notre but ? Alors, notre but, c'est évidemment d'arriver à une décarbonation profonde de notre économie vers le milieu du siècle. Et c'est un petit peu avec ce prisme-là qu'on a regardé aussi les transformations en cours dans certains secteurs. On a des aides aujourd'hui. Quels que soient les travaux que vous fassiez dans votre maison, vous pouvez obtenir une aide. Et il est clair que si vous faites des travaux aujourd'hui, vous ne repasserez peut-être pas dans les 15 ans, les 20 ans prochains avec d'autres travaux. Donc on a là un enjeu qui est celui, ce qu'on dit, d'aider à faire des rénovations profondes, c'est-à-dire des rénovations importantes qui vont faire un grand saut qualitatif. On n'y est pas vraiment et les aides actuelles ne sont pas vraiment ciblées pour faire ce genre de travail.
Et puis il y a le gros point noir des transports.
Voilà,
que vous
après on a d'autres secteurs comme celui des transports et là le problème est différent, c'est-à-dire dans le bâtiment on a des progrès et on essaye de dire comment capitaliser. Sur les transports, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que finalement, les gains qu'on peut faire en termes d'efficacité, en termes d'amélioration individuelle, par exemple des véhicules, continuent à être compensés par une augmentation de la demande en transport. Donc on est bien dans un secteur sur lequel aujourd'hui, les progrès technologiques n'arrivent pas à compenser l'augmentation des émissions qui est liée à une demande en transport toujours plus importante. Et c'est vrai aussi bien du transport de passagers que du transport de fret.
Michel Colombier, hier, la loi climat et résilience a été votée par le Sénat. C'est la loi qui reprend certaines des propositions de la Convention citoyenne qui avait eu lieu pour le climat. Un texte que beaucoup estiment insuffisant. Le Sénat a notamment retiré du texte l'écotaxe. Est-ce qu'on peut arriver à tenir les objectifs que la France s'est fixés sans passer par cette écotaxe ou cette taxe carbone que d'autres pays ont mise en place ?
Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin, d'une façon ou d'une autre, de renchérir dans notre pays le coût des énergies fossiles, au sens où on a besoin de prendre en compte le coût que ces énergies font porter sur l'environnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs façons de le faire. Alors, on peut le faire directement au travers de formules de taxation, mais ça pose des problèmes, ça pose des problèmes de justice sociale, ça pose des problèmes de transition. Et progressivement, on peut aussi le faire au travers de mesures qui sont des mesures d'aménagement, qui sont des mesures de normes. Si je vous dis, par exemple, que demain, on a des nouvelles normes sur la construction des bâtiments neufs, c'est une façon d'intégrer cette préférence pour des bâtiments qui consomment moins d'énergie sans forcément passer par une taxation. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on devra revenir sur la question de la fiscalité environnementale, mais le message qu'on a clairement entendu pour l'instant, c'est un message de d'abord développer des solutions.
Est-ce qu'on est sur la bonne route ? Est-ce qu'on peut encore atteindre les objectifs fixés au niveau européen, réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est encore possible ?
Je pense que c'est possible si on en a la volonté. Les objectifs européens ont été revus à la hausse, ce qui est important dans le cadre de la discussion internationale. Il a échappé à personne que c'est une course que la France ne peut pas mener et gagner seule, évidemment, ni même l'Europe. Donc de ce point de vue-là, on a un effort maintenant renforcé au niveau européen. La France doit y prendre sa part. Est-ce qu'il est possible de l'atteindre ? Mais oui, tout le monde le sait, les experts le savent, que l'on a les solutions pour le faire. Je crois que la question d'arriver à mettre ces transformations en route avec à la fois beaucoup de volonté, mais en prenant compte aussi, évidemment, les difficultés que ça créera nécessairement dans certains secteurs. Ça peut créer des difficultés du côté des consommateurs, on l'a vu, et il faut les prendre en compte, parce qu'il y a un renchérissement de certaines solutions qui étaient des solutions traditionnelles. Ça pose aussi des questions du côté de la sphère de production. des opportunités. On a parlé de l'isolation des bâtiments. C'est une opportunité immense pour le monde du bâtiment, de nouveaux marchés évidemment et donc d'emplois. Mais on voit bien que dans le secteur de l'automobile, c'est pas la fin du secteur automobile, mais c'est des transformations profondes en passant vers le secteur électrique qui vont changer les métiers de la mécanique vers l'électricité. Il faut qu'on anticipe ces transitions pour qu'elles ne se fassent pas au détriment, je dirais, notamment des professionnels, des gens qui travaillent dans ces secteurs-là.
Voilà, des progrès dans les politiques de la France pour réduire les émissions de CO2, mais une amélioration mitigée. Conclusion du rapport annuel du Haut Conseil pour le climat auquel vous avez participé, Michel Colombier. Merci pour votre éclairage ce matin sur Europe 1. Bonne journée.
Merci.
Europe 1.
5h49 sur Europe 1, c'est l'heure de mettre en lumière ceux qui font bouger la France. Avec vous, Lénaïck Monnier, où est-ce qu'on va ce matin?
À Laval, ville d'arrivée du Tour de France, ce mercredi, et le vélo ambassadeur du label Ville à Vélo y est présenté dans la journée.
La France bouge, à suivre dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Sébastien Krebs.
Il est 6h10 sur Europe 1, très bon réveil. Après une année encore compliquée par la pandémie, c'est un moment très attendu par les commerçants. C'est le début des soldes ce mercredi, 4 semaines de rabais. La loi bioéthique a été définitivement adoptée hier par les députés après 500 heures de débats parlementaires, 326 voix pour, 115 contre, 42 abstentions. Le texte autorise la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes seules. Et puis le foot à l'Euro. L'Ukraine et l'Angleterre s'affronteront en quart de finale après avoir respectivement éliminé la Suède et l'Allemagne.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Allez, c'est l'heure de La France bouge. Avec vous, Lénaïck Monnier, va donc en Mayenne ce matin.
Le contre-la-montre arrive à Laval aujourd'hui sur le Tour de France. Et entre-temps, les spectateurs pourront découvrir un vélo électrique augmenté. On en avait parlé il y a quelques mois. Le Tour a lancé un label Ville à Vélo du Tour de France pour encourager les communes à des aménagements en faveur de la bicyclette au quotidien. Si ce vélo est augmenté, c'est parce que son moteur est installé à hauteur de pédalier et non plus à l'arrière et qu'une batterie a été intégrée au cadre. Elle est encore plus invisible qu'avant. C'est un vélo qui a été pensé et inventé par deux ingénieurs de Rouen. Les pièces sont assemblées à Machecoul en Loire-Atlantique, à la fameuse manufacture française du cycle qui d'ailleurs, allez voir, recrute beaucoup en ce moment. Il y a une vingtaine d'offres d'emploi.
Donc un vélo assistance électrique made in France, vélo augmenté. Vous dites c'est une façon de mettre un peu un coup d'accélérateur sur les mobilités douces dans les villes moyennes.
Oui, la France s'y est convertie sur le tard. On est désormais 5e rang mondial derrière des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. L'usage du vélo a augmenté de 50% en France, mais plutôt au démarrage dans les grandes agglomérations. C'est un marché porteur, créateur d'emplois avec, on vient d'en parler, la manufacture française du cycle, et aussi les boutiques d'entretien, parce que maintenant les Français bichonnent et accessoirisent énormément leurs vélos. Du Made in France, donc, avec un clin d'œil pour le vélo qui sera présenté aujourd'hui. Normalement, il est aux couleurs bleu, blanc, rouge du Made in France, mais là, il y a une édition limitée pendant la grande boucle. Le bleu, le gris et le jaune viennent en remplacement et on a même installé une selle un peu rétro, un peu vintage en cuir marron.
Voilà, le secteur du vélo qui recrute énormément.
Manufacture du cycle,
allez-y. Il faut former des réparateurs de vélo. Il y a besoin de réparateurs de vélo partout.
De la DRH également, puisqu'il y a beaucoup de recrutement aussi. Donc voilà.
Et donc la manufacture française du cycle, c'est en Loire-Atlantique, à Machecoul, et il y a des offres. Voilà, c'est dit. Merci Lénaïck Monnier. 5h52. Martin Lange, qu'est-ce qui anime les réseaux sociaux aujourd'hui?
Eh bien ce matin Sébastien, je vais plutôt vous parler de ce qui ne les anime plus. Je ne sais pas si vous êtes un habitué de TikTok, mais ce qui marche le plus sur la plateforme...
Mais grâce à vous un petit peu.
Ce sont les chorégraphies, elles sont partagées et reprises des millions de fois. Et à l'origine, il y a souvent des danseurs ou des danseuses de couleur. Eh bien figurez-vous qu'ils se sont mis en grève, grève de la danse, pour protester contre leur invisibilisation. Car ils ont beau être les créateurs de toutes ces chorés, ils sont souvent les grands oubliés de l'histoire.
La grève de la danse. Alors comment elle se manifeste, cette grève sur les réseaux sociaux?
Alors vous connaissez ça, Sébastien? C'est le dernier morceau d'une rappeuse américaine assez connue par les jeunes, Megan Thee Stallion. Typiquement le genre de chanson à l'origine des challenges de danse sur TikTok. Sauf qu'au lieu de se déhancher, plusieurs internautes noirs ont publié des vidéos face caméra.
Pour mes millions de frères et de sœurs de la diaspora africaine, nous sommes en grève. Oui, nous sommes en grève et nous ne ferons pas de danse pour ça. Désolé.
Celle que vous venez d'entendre, hein, c'est Captain Knuckles, pardon, hein, près de 100 000 abonnés, et ils sont des dizaines
100 000
quand même,
abonnés, quand même.
Ouais, 100 000 abonnés, hein, et ils sont des dizaines comme elle à refuser de danser.
Alors, quelle est l'origine de ce ras-le-bol ?
Eh bien, c'est ce sentiment d'injustice. Hein. Par exemple, Jailala Harmon, hein, une ado de 14 ans, a lancé la Corée de l'année en 2019. Ça s'appelle Renegade, hein, sur un morceau du rappeur K-Camp. Des pas de danse devenus viraux sans que le mérite n'en revienne à la jeune fille. Il a fallu une enquête du New York Times, hein, pour que son nom soit révélé au public. Autre exemple, cet hiver, hein, une influenceuse blanche est invitée sur le plateau de Jimmy Fallon, hein, un célèbre night show américain. Elle lui apprend 8 chorégraphies très populaires sur TikTok, sauf qu'aucun des chorégraphes noirs à l'origine de ces danses n'est cité.
Comment TikTok réagit face à cette grève ?
Alors la plateforme assure tout mettre en œuvre pour créditer les auteurs à l'origine d'un contenu, hein, qu'il soit noir ou blanc. Mais ce n'est pas la première fois que la plateforme s'attire les foudres de la communauté noire. L'an dernier, l'algorithme de TikTok avait bloqué les hashtags relatifs à la mort de George Floyd, ce qui avait choqué les militants contre le racisme.
Les tensions raciales qui vont jusque sur les réseaux sociaux et jusque dans le divertissement, la danse sur les réseaux sociaux. En tout cas, aux États-Unis, tout cela se passe aux États-Unis. Martin Lange, merci. Il est 6h05 sur Europe 1. Et vous avez rendez-vous à 14h avec Christophe Ondelat pour Ondelat raconte. L'histoire du jour, c'est le destin extraordinaire d'Adrienne Bolland, la première aviatrice à avoir franchi la cordillère des Andes en 1921. L'histoire n'a pas vraiment retenu son nom. Est-ce parce qu'elle est une femme ? La question est posée. Le récit dans Ondelat raconte à 14h. Et dès maintenant sur Europe1.fr en podcast.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement, dans un bain. Un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Amour. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Chatterton sur Europe 1, un monde nouveau. Chatterton qui sera au Vieille Charrue avec Europe 1. Ce sera le 14 juillet. Il est 5h58.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Et je vous souhaite la bienvenue si vous vous réveillez et que vous nous rejoignez sur Europe 1. Le 5-7 continue. C'est mercredi 30 juin. On écoute le monde changer avec à la une un rendez-vous mondial aujourd'hui à Paris. Un sommet dédié à l'égalité entre les hommes et les femmes. Le forum Génération Égalité s'ouvre à Paris. Il va durer 3 jours. Il sera ouvert par Emmanuel Macron tout à l'heure. Et les États qui participent, ils sont plusieurs dizaines, ont déjà pris des engagements. Alors, quels effets concrets au-delà du symbole? Je poserai la question à celle qui co-préside ce sommet. C'est l'ambassadrice française Delphine Haut qui est mon invitée tout à l'heure à 6h40. Laurent Cabrol, avant le journal de 6h pour une météo encore assez maussade, hein, Laurent.
Bah oui, j'étais un peu optimiste tout à l'heure, à 5h30. Je voyais une amélioration un peu trop franche et finalement, quand on regarde bien les cartes et surtout quand on regarde le temps qu'il fait, ce que j'ai pas suffisamment entrepris à 5h30, et je m'en excuse auprès de nos amis, je voudrais dire que la pluie est quand même bien et bien présente sur une petite moitié nord. Alors Champagne-Ardenne, Alsace, Bourgogne, Lorraine, Franche-Comté, Auvergne et Picardie, des pluies dès ce matin. Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Sens, Poitou-Charentes, Limousin et région lyonnaise, un temps gris couvert avec des averses. En région parisienne, les pluies seront de moins en moins là. Voilà, ce matin, il pleut quand même en Île-de-France, surtout sur le nord de l'Île-de-France. Mais les pluies seront de moins en moins présentes au fil des heures. Alors, le soleil, quand même, mais là, je ne me suis pas trompé. C'est exactement les régions que j'ai données tout à l'heure. Aquitaine, Midi-Pyrénées, Pays Basque, Cévennes, Aveyron, Vallée de la Loire, les Alpes dans leur ensemble, et le bassin méditerranéen dans toutes ces contrées, nous aurons du soleil. Donc, le soleil dans le sud, mais l'extrême sud, et les températures maximales entre, toujours aussi fraîches, 17 et 21 sur la moitié nord et entre 23 et 28 sur les régions du sud.
Voilà, c'est pas encore gagné pour l'été.
Ah non.
À tout à l'heure, merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite votre journal sur Europe 1. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.